On est avec un personnage bizarre. On ne sait pas s'il s'appelle Alexandre ou Serge. Bonjour, Alexandre Stronowski, c'est pas facile à dire. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'ai pris comme nom d'auteur Serge Constantin.
Stronowski, ça fait beaucoup de points à Scrabble, ça.
Oui.
Tu es un voisin d'étape, tu connais bien le Bessie, parce que tu es ici avec une association dont on a déjà parlé. Résume-nous un peu ton rôle là, dans cette association.
Je suis administrateur dans l'association belge des journalistes automoto.
Voilà, on a parlé l'autre jour des interviews, souvenez-vous. Pour ceux qui sont attentifs aux produits, aux problèmes, du prix de l'énergie. Hein. C'est pas ça qui t'amène. Tu as écrit un livre sur une voiture bizarre qui s'appelle la Tucker. Hein.
Exact.
Voilà, très peu d'exemplaires.
Oui, c'est une voiture qui a été créée en 1948. Il y a eu un prototype et puis 50 voitures, une série de 50 voitures. Et sur les 51, aujourd'hui, il en reste 47.
Voilà, elle a été mise en exergue par notre ami Francis Ford Coppola, c'est ça ?
Oui, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait la connaissance de cette voiture par le film de Francis Ford en 1988, voilà, qui s'appelait tout simplement Tucker.
Je rappelle qu'à l'époque, c'était des fous, hein, des visionnaires, des gens incroyables qui ont créé l'automobile, enfin, qui ont créé ce genre de voiture. C'était quoi le principe de la Tucker ? Le look typiquement américain, on ne peut pas se le voiler, hein.
Absolument, mais on se retrouve juste après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a énormément de soldats qui sont démobilisés, et la première chose qu'ils cherchent à avoir, c'est une voiture.
D'accord.
Donc Tucker a eu l'idée, il a toujours été dans le monde de l'automobile, il a été vendeur pour différentes marques.
Oui, un vendeur hors pair en plus, un espèce.
Absolument.
De quelqu'un qui aurait vendu des lunettes à verre correcteur à Ray Charles, par exemple.
Oui.
Du sable au Peul dans le désert. Donc c'est un vendeur extraordinaire, puis il se décide de se lancer en voiture. On va qualifier d'une mauvaise gestion, c'est ça qui le met un peu par terre. Comment ça se passe ?
Non, c'est plutôt un rêveur. Et il a l'idée de faire une voiture comme personne n'en a jamais fait à l'époque.
C'était quoi les valeurs de la voiture, les principes, comme on dit, qu'est-ce qu'il voulait dans cette voiture ?
Il voulait tout d'abord une voiture de sécurité.
D'accord.
C'était quelque chose qui, même 20 ans plus tard, était encore battu en brèche par les grands constructeurs. Il suffit de se rappeler de Ralph Nader et de son fameux livre « Unsafe at any speed »,
oui,
qui parlait de la Corvette.
À l'époque, les pare-chocs, c'était les jambes des conducteurs. Hein, donc... Il y a eu beaucoup d'accidents. Effectivement, il y a moins de sécurité que maintenant. Donc Tucker lance cette voiture, on est en 1948. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pas ?
Mais c'est-à-dire qu'avant de lancer ce projet, il avait un rêve fou d'avoir une voiture sans boîte de vitesse, une voiture à transmission hydrostatique. Mais il n'était pas ingénieur et il ne voulait surtout pas écouter les spécialistes parce qu'il avait une vision et il voulait sa vision.
Ah, c'est ça. Alexandre Stronowski, j'arriverai pas. Comment est-ce qu'on dit ?
Serge Constantin.
Serge Constantin. Voilà, l'auteur d'un livre s'appelle Tucker, qui est édité à très peu d'exemplaires. Hein. C'est vraiment un compte d'auteur, j'imagine ?
C'est un livre qui a été édité à compte d'auteur. En fait, j'ai accumulé pendant 20 ans de la documentation sur Tucker après avoir découvert cette marque par le film de Coppola. Et je suis membre de l'association des Friends Auto World. Et voilà. Lors d'une conférence d'Yvan Mailly...
Voilà, on va en parler parce qu'il a préfacé le livre et c'est important de parler aussi. On va en parler tout de suite.
Oui, mais c'est lui le déclenchement du livre, en fait.
On peut parler hein, deux secondes de la famille Mailly, qui est une famille belge absolument invraisemblable. Je crois qu'ils construisent un premier musée du côté d'Outal, si mes souvenirs sont exacts. Un ancien bowling ou je sais pas quoi, ça commence un peu comme ça.
Non, à Gand, d'abord dans l'ancien cirque d'hiver.
Exact.
C'était un garage dans lequel il accumulait plein d'acquisitions, entre guillemets.
De voitures. Donc c'est vrai passionné. Et puis tout s'est retrouvé un peu ici, hein, du côté du cinquantenaire. Hein, bon.
C'est-à-dire qu'il a pu avoir un musée à Autalen en Campine. Ça a duré quelques années. Puis l'administration communale a multiplié le loyer par 3 ou par 4, et donc il a replié. Et finalement, il y a eu la rénovation au cinquantenaire grâce du ministre Olivier et de Herman de Croo,
oui,
du prince Albert.
On remerciera aussi, on saluera sa mémoire, c'est la famille Thorenne et Roland, si vous nous écoutez, il n'y a pas très longtemps.
Absolument, et c'est de là que la connexion a été transférée.
Voilà, donc Yvan Mailly, il arrive quand dans l'histoire ?
Yvan Mailly vient faire une conférence sur l'histoire de la collection de son papa.
D'accord.
Et dans la conférence, il explique qu'en 1948, son papa devait être concessionnaire Tucker en Belgique.
Ah oui, c'est ça l'histoire. Et ça ne s'est pas fait ?
Mais c'est-à-dire qu'il a rempli les conditions, il a commandé deux voitures et il devait être concessionnaire pour les deux Flandres. Mmh. Il y avait un importateur dont, grâce à Yvan, j'ai trouvé de la documentation et notamment du courrier, de la correspondance, un importateur qui se trouvait ici à Bruxelles, rue Terre-Neuve.
Ah ben voilà, donc c'est ça toute l'histoire de Tucker. Et finalement, Tucker n'arrivera jamais en Belgique, c'est ça, hein ?
Elle n'arrivera jamais en Belgique, et même il n'y en a que 50 qui circuleront aux États-Unis, parce que la construction automobile est une industrie capitaliste importante.
Et clairement.
Et Preston Tucker, lui, rêvait et n'imaginait pas la quantité d'argent qu'il fallait, et surtout qu'il était mal organisé, il a perdu énormément d'argent.
C'est ça les rêveurs, hein, donc voilà, c'est ça les rêveurs. Alors, on rappelle, c'est l'histoire de la fameuse histoire de Tucker. Hein. C'est une voiture extraordinaire qui a été créée dans les années, fin des années 40, hein, l'après-guerre. Et puis, tu en as écrit un livre. Ce livre, il est destiné vraiment à un public très niche, hein, on va dire.
Mais finalement, pas tellement. D'après ce que j'ai vu, j'en ai vendu une petite centaine. Et c'est un livre qui ouvre les yeux sur un morceau inconnu de l'histoire de l'automobile. Mais qui est écrit... à la portée de n'importe qui s'intéresse à
l'automobile. C'est un gros, gros travail. Hein. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 20 ans de recherche.
Et... 20 ans d'accumulation, puis la conférence avec Yvan, je suis en contact avec lui, il m'ouvre les archives familiales. Et là, je découvre vraiment quelque chose de merveilleux. J'entre en contact avec le musée Tucker aux États-Unis. Et là, sur base des informations que j'ai pu collecter grâce à Yvan, les Américains découvrent ce qu'ils ignoraient, que les Tucker devaient être importés en Belgique en 1948.
Voilà, surtout à Bruxelles qui représente la capitale de l'Europe. Et puis,
j'ai trouvé, grâce à Yvan, les documents, il devait y avoir un stand Tucker au Salon de l'Auto en février 1948.
Eh bien, dis donc, voilà quelle histoire. Donc, on est passé à côté d'une belle histoire. Il n'y a jamais eu de Tucker en Europe, alors ? Elles n'ont jamais roulé ?
Officiellement, non, mais apparemment, juste au début de la pandémie, j'ai vu que lors d'une vente aux enchères, il y aurait eu une voiture vendue à Monaco qui serait partie en Angleterre.
Voilà.
Mais je n'ai pas pu retracer.
La cotation de ce type de voiture, c'est autour de 1,2 million, je pense, c'est ça ?
1,250 000 dollars au minimum. Oui. Et j'ai rencontré le propriétaire de la voiture personnelle de Preston Tucker.
Oui.
Qui vaut, elle, 2 millions de dollars.
Parce qu'elle appartient, que, je suppose qu'il y a la numéro 0, la numéro 1.
Non, c'est la numéro 39.
Voilà,
gris métallisé, mais disons avec définition unique.
Est-ce qu'il y a encore, maintenant, on vit l'aventure un peu exceptionnelle aussi d'un rêveur, hein, c'est Elon Musk. Est-ce que ce genre d'histoire, on voit encore les revivre dans le monde de l'automobile ? On a quelques personnalités, hein, qui je pense à envers et contre tout, notre ami Elon Musk qui s'est lancé dans Tesla, tout seul un peu aussi. Hein.
Tout seul, mais avec un appui colossal des banques.
Ah oui, je sais.
Puisqu'il il a toujours une dette colossale qu'on ne lui demande pas de rembourser. Alors que Tucker, lui, quand il a vendu des actions et qu'il a cherché à avoir de l'argent, on a insisté en disant, oui, qu'il était un escroc et qu'il avait récolté de l'argent, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de construire une voiture. On aurait pu dire la même chose d'Elon Musk au début. Et puis finalement, grâce à son endettement colossal, il est arrivé progressivement à avoir des voitures. Mais que vont-elles devenir ? Ça, on en sait trop.
Ça, c'est une autre aventure. D'autres écrits que tu as faits ou des choses sur lesquelles tu travailles,
Alexandre ? Après le livre Tucker, voyant quand même un certain succès, je me suis lancé. J'adore les archives. Mmh. Et je me suis rappelé un événement de janvier 68, en pleine guerre du Vietnam. Les États-Unis se sont fait capturer un bateau espion le long de la côte de la Corée du Nord.
Ah bon, oui.
Il n'y a rien d'écrit en français et j'ai trouvé plein d'archives déclassifiées, notamment les archives personnelles du président Johnson. Et là-dedans, on découvre un monde absolument incroyable, le monde du renseignement, et des magouilles, entre guillemets, entre les services de renseignement, la marine et les pauvres troufions qui sont sur ce bateau en plein hiver.
Oui, qui se lâchent à canon, comme on les appelle dans l'armée.
Et qu'on kidnappe et qui restent prisonniers et qu'on torture pendant presque un an en Corée du Nord. Et à ce jour, le bateau est toujours en Corée du Nord.
C'est incroyable. Donc merci beaucoup, Alexandre, de faire revivre comme ça les vestiges du passé, pas toujours élégants. Tucker, c'est une belle histoire. Et pour le reste, d'autres choses en prévision ?
Oui, en ce moment, un sujet également où il n'y a rien d'écrit en français. En août 1963, le plus grand des hold-up, qu'on appelait le hold-up du siècle, le train Glasgow-Londres.
Oui, et on avait toujours dit, ou laissé entendre, que notre ami Bernie Ecclestone, patron de la Formule 1, non, on était proche ou pas loin, on ne saura jamais. Est-ce qu'on le sait dans ce document?
Je suis en train d'y travailler. Bernie Ecclestone, en fait, c'est parce qu'un des acteurs de ce cambriolage était un excellent pilote de course qui, avec un butin précédent, avait acheté une Brabham BT6 et il battait Jackie Stewart, Dennis Hulme et tous des gens de ce...
Voilà, on a toujours attaché cette casserole au cul.
C'est plus une casserole qu'une réalité.
Voilà, notre ami Bernie qui est encore vivant et vaillant. En tous les cas, la langue bien pendue. Merci Alexandre, dis-nous un peu ton nom.
Serge Constantin pour Serge... le livre Tucker.
Allez, merci beaucoup et à très vite.